Nous y sommes pour ce nouveau rendez-vous des carnets de Comaguerre, comme toutes les semaines le mardi à 15h. Vous savez que c'est toujours sur Internet, toujours sur Radio DAB et sur modulation de fréquence dans la région marseillaise 88.4. Et pour rester dans la fidélité, Yamine est là dans la cabine technique, je le remercie. Et puis, mes complices habituels, donc Roselyne, bonjour. Habib, bonjour.
Bonjour.
Alors, beaucoup, mais je ne voudrais pas le dire, c'est toutes les semaines pareil, beaucoup d'informations. On va commencer par une information qui concerne l'Union africaine. Alors, ce n'est pas le cœur de vos préoccupations, probablement, mais l'Union africaine, donc, qui a pris la suite de l'organisation de l'unité africaine, s'est réunie avec un ordre du jour assez chargé, mais elle s'est arrêtée sur une question diplomatique délicate, qui n'était pas central, ça devait être débattu, parce qu'il se trouve que cet été, alors vous savez que l'Union africaine, ça fonctionne un peu à l'image de l'Union européenne, toute proportion gardée, mais il y a une commission, c'est-à-dire des permanents qui sont à Addis Abeba, qui sont des espèces de technocrates chargés de faire fonctionner l'Union, et puis des réunions de chefs d'État ou de gouvernement, qui sont des réunions épisodiques, donc je crois tous les 6 mois ou tous les ans, de l'Union africaine elle-même. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette réunion donc, de l'Union africaine, donc des chefs d'État et chefs de gouvernement, a dû aborder à l'ordre du jour, dans sa session, une question qui avait été apparemment réglée par le président de la commission. Mais est-ce qu'il avait outrepassé ses pouvoirs ou pas ? Bon, la question reste posée. Mais qui avait accepté que Israël devienne membre observateur de l'Union africaine ? Alors, il faut rappeler que ce n'était pas tout à fait une question nouvelle, puisque Israël avait déjà eu ce statut de membre d'observateur de l'Union africaine, mais qu'il avait été exclu de ce poste d'observateur. J'entends bien qu'Israël n'est pas un État africain, donc ne peut pas être statutairement membre, mais qu'il avait été exclu de cette fonction et de ce poste d'observateur à la suite de la guerre de 1973 contre les pays arabes. Et on en était là, des relations entre l'Union africaine et Israël, c'est-à-dire que l'Union africaine avait dit, vu la façon, et c'était ça la motivation de sa position de 1973, position-là des chefs d'État de l'Union africaine, pas simplement du président de la Commission, c'était de dire, vu la façon dont vous traitez les États arabes, et en particulier les Palestiniens sur votre territoire, ou le leur, plutôt le leur que le vôtre, d'ailleurs, on ne vous accepte pas dans l'Union africaine, même comme observateur. Et on en était là depuis 1973. Et puis, il se trouve que pendant toute cette période, Israël n'a pas tout à fait perdu son temps. Vous savez qu'Israël, qui n'est membre de rien, mais qui met son pied partout, son nez partout, ses yeux partout, il écoute, il observe, il prend des intérêts. Il n'est pas membre de l'Union européenne, mais tout se passe comme s'il en était membre. Il n'est pas membre de l'OTAN, mais il a accès à tous les secrets de l'OTAN. On a affaire à un espèce d'État qui s'infiltre partout, qui est partout et qui s'engage à rien. En particulier, je le rappelle, à ne pas signer de traités internationaux qui pourraient le contraindre à quoi que ce soit. Et on le laisse faire. Les États-Unis le laissent faire, soyons clairs, avec la complicité de la plupart des États européens. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le président de la Commission, donc ce technocrate, ce technicien, cet été, l'été 2021, a décidé, il a pris une position en disant, à la demande d'Israël, on lui redonne le statut d'observateur au sein de l'Union africaine. Alors, il pensait le faire comme ça, que ça passe comme une lettre à la poste et qu'il n'y ait pas de débat. Et il se trouve qu'il y a eu un débat qui est arrivé donc à la prochaine session donc qui s'est tenue la semaine dernière des chefs d'État de l'Union africaine pour savoir s'il avait bien eu raison de changer la position de l'Union africaine ou s'il avait eu tort. Alors, ça aurait pu être une réunion tranquille où on aurait pu ne pas avancer à grand-chose. Simplement, cette réunion avait été préparée. Parce qu'il y a un certain nombre d'États à la tête desquels l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui avaient décidé de ne pas laisser passer et qui considéraient comme tout à fait condamnable à toute une série de points de vue la position et la décision même prise par le président de la Commission de l'Union africaine. Ça a donc donné lieu, non pas à un vote, mais à un débat. Pourquoi pas un vote ? Parce qu'effectivement, tous les observateurs et tous les diplomates ou chefs d'État qui sont là se sont bien rendus compte que si l'Union africaine devait délibérer sur la question du statut d'observateur d'Israël dans l'Union, la cassure était certaine. Alors certains faisaient des hypothèses, oui, mais ça passera, il y aura une majorité dans un sens ou dans l'autre. Mais ce qui était certain, et c'est l'analyse qui a prévalu, c'était que de toute façon, on allait à un conflit et même à une cassure au sein de l'Union africaine importante sur une question qui est importante et qui n'est pas seulement diplomatique. Ça, je vous dis, Israël est partout. Il faut le savoir, les intérêts israéliens sont partout. Les systèmes de surveillance et d'espionnage israéliens sont à l'œuvre dans beaucoup de pays africains. Les, allez, je ne vais pas dire les trafiquants, soyons gentils, les entreprises israéliennes qui font métier du commerce du diamant et de l'or sont présentes partout sur le territoire africain, puisqu'il y a précisément de l'or et des diamants, ça chacun le sait. Elles ont des intérêts miniers ici et là, donc la présence est réelle, ce qui explique d'ailleurs que, et c'était ça l'argument du président de la Commission, de dire mais il y a beaucoup d'États d'Afrique qui ont reconnu l'État d'Israël. Et ça, c'était tout à fait vrai, parce qu'ils ont des relations diplomatiques normales, mais comme ils peuvent avoir avec un État asiatique ou un État d'Amérique latine, pas plus ni moins. Mais donc, Israël, inféré de l'espèce de confiance qu'il a dans une majorité, d'ailleurs, de pays membres de l'Union, qui ont un lien diplomatique avec Israël, pour dire, ah ben voilà, c'est acquis, puisque la majorité a des relations diplomatiques normales avec Israël. C'était aller bien vite, et c'est oublié que tout le monde n'aimait pas. Et donc, ce qui s'est passé, alors tout le monde n'aimait pas, donc je vous ai mis en tête l'Algérie et l'Afrique du Sud. Alors pourquoi l'Algérie ? D'une part, parce que l'Algérie a une position diplomatique particulièrement ferme et stable sur la question de la Palestine, dont elle n'a jamais bougé. Bon. Et l'Algérie est d'autant plus sourcilleuse sur ces questions-là qu'on a mis en travers de son chemin et de son indépendance politique et diplomatique un certain roi du Maroc, avec l'appui puissant permanent d'Israël, qui lui cherche des difficultés et qui voudrait bien qu'effectivement l'Union africaine ne soit pas un endroit où on puisse résister à l'impérialisme sous ses différentes formes états-uniennes, israéliennes, etc. Et donc c'est ce qui explique que l'activité diplomatique de l'Algérie sur cette question-là a été tout à fait intense. Pour arriver, non pas à un vote, donc l'Union africaine a évité l'erreur de voter sur cette question-là, parce qu'il y aurait eu des accords, il y aurait eu une cassure forte, mais elle a pris une décision sur laquelle il faut s'arrêter. Parce que la décision prise consiste à nommer une commission qui va réfléchir à la question. Alors vous savez que c'est un vieux classique du parlementarisme, on dit les sujets qu'on veut noyer, on les met en commission, et puis après, bon, il en sort quelque chose ou il en sort rien. Comme la commission n'est pas tenue de fournir une position dans des délais donnés, n'a pas de procédure qui lui a été imposée par le sommet des chefs d'État, la commission peut travailler ou ne pas travailler, ne pas répondre aux convocations de son président. Bon, on en reste là. Et c'est peut-être ce qui a été finalement le point de consensus, c'est-à-dire qu'on va faire croire qu'on va délibérer, qu'on va réfléchir à la question, et puis plus longtemps ça mettra, mieux ce sera. Et après tout, on peut, nous, se satisfaire de ce point de vue-là. Ça mettra tellement longtemps que la question du poste d'observateur d'Israël ne sera jamais réglée. Et c'est tant mieux comme ça. Donc Israël ne sera pas et ne sera peut-être jamais observateur au sein de l'Union africaine. Alors le choix, d'ailleurs, le choix de la commission est assez intéressant parce qu'il y a dedans, donc, alors c'est des chefs d'État et des présidents, donc le président de la République démocratique du Congo, qui n'est pas farouche anti-impérialisme, ce Tshisekedi. Il y a M. Kagame du Rwanda, qui lui, on le sait, très très proche d'Israël et de ses façons de travailler. Il y en a encore quatre autres. Bon, il y a le Sénégal. Le Sénégal qui est chargé de présider la commission.
Il est Macky Sall est président de l'Union africaine depuis le 1er février pour un an.
Voilà.
Et il remplace Félix Tshisekedi.
Mais il a été nommé président de cette commission. S'il ne la réunit pas, il ne la réunit pas. Personne ne lui demandera. Voilà. Donc c'est... Non, pas du tout. Non, il n'y est pas. Non, ils sont cinq. Non, ils sont très très peu nombreux. Alors avec des connus comme des partisans farouches d'Israël, je pense à Kagame par exemple, d'autres beaucoup moins. Et donc, effectivement, même la composition de la commission laisse penser que la commission même n'arrivera même pas à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. C'est peut-être le but recherché. C'est ce qu'on appelle la patate chaude dans le langage courant, c'est-à-dire se débarrasser d'un sujet qui fâche. Mais le résultat qui est important, c'est que du fait de cette décision, avec le caractère un peu ambigu qu'elle a encore, Israël n'est pas aujourd'hui donc observateur au sein de l'Union africaine. Et j'ajoute, ça c'est mon appréciation, n'est pas près de l'être. C'est surtout ça qui importe.
Est-ce que les Américains ne vont pas faire pression sur les...
Oui, ils vont faire pression, mais sur qui ils vont faire pression? Alors, ils vont faire pression sur peut-être sur le Rwanda, mais ils ne vont pas faire pression sur l'Afrique du Sud, ils perdront leur temps. Non. Ils ne vont pas faire pression sur l'Algérie, ils perdront leur temps. Plus. Ils sont trop mouillés du côté du roi du Maroc et d'Israël. Donc, à mon avis, ça ne fera pas beaucoup d'effet. Ça ne fera pas beaucoup d'effet, d'autant plus que leurs interventions dans d'autres pays d'Afrique qui sont un peu... entre les deux, qui sont un peu indifférents sur la question d'Israël observateur, je pense à l'Éthiopie, ne vont pas voler au secours des Israéliens, parce que par ailleurs, les États-Unis leur compliquent beaucoup la vie, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la guerre du Tigré. Donc tout ça fait que je pense qu'on s'achemine plutôt vers une espèce de le sujet affaire classée, ensuite, et on n'en parle plus. Mais il faut reconnaître que c'est une victoire diplomatique de l'Afrique du Sud et de l'Algérie. Sans leur action... et sans ce débat qui a eu lieu et qui se finit de ces façons assez étranges, mais finalement compréhensibles, il y aurait eu confirmation de la décision prise de façon assez technocratique par le président de la Commission, par l'exécutif. Alors, pour donner une comparaison, c'est comme si dans l'Union européenne, ce n'était pas la réunion des chefs d'État, ce qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne, des chefs d'État, c'était Mme Ursula von der Leyen qui prenait les décisions importantes toute seule, avec son état-major de technocrate bruxellois. C'est le même rapport. Hein. Et donc c'est extrêmement dangereux d'avoir un technocrate qui a été mis là, qui a été élu par personne, hein, qui est là pour faire fonctionner une institution, donc c'est un super fonctionnaire, si on veut, qui prend des décisions qui ont une portée politique considérable. Madame Ursula ne le fait pas, parce qu'elle se ferait taper sur les doigts et elle a bien compris où s'arrêter sa prestation et son rôle. Voilà, donc je voulais faire cette mise au point parce qu'elle est importante et je pense qu'elle marque un recul. Je l'ai dit, la position très anti-algérienne prise par la monarchie marocaine, les relations étroites que cette monarchie entretient désormais avec Israël. Enfin, d'ailleurs, on ne sait pas qui tombe dans les bras de l'autre, mais je pense que dans ces cas-là, c'est plutôt le Maroc qui est tombé dans les bras israéliens et les Israéliens serrent fort.
Ils ont amené le loup à la bergerie.
Voilà, c'est ça. C'est une accolade extrêmement forte. C'est un baiser, le baiser qui tue peut-être, mais on ne le souhaite pas aux Marocains. Mais il est clair que la monarchie marocaine est en train de jouer, je pense, une partie de sa survie avec ce genre d'alliance. Bien. Ouais. On y reviendra peut-être ou peut-être pas. Ensuite, on va vous parler un peu de l'Ukraine. Alors, pour parler, parce que alors les médias en ont parlé, les médias français, puisque, vous le savez, le président de la République française et chef des armées a été reçu à sa demande par le président de la Fédération russe. Alors, à quoi servent les médias français, la majorité, dans ce genre d'occasion? C'est à dire, quel rôle extraordinaire a tenu notre président? Alors, il faut savoir, petit clin d'œil, que le ministère des Affaires étrangères russe, l'après-midi ou le matin de la visite du président français, avait publié un petit communiqué disant qu'il n'avait pas d'attente particulière par rapport à cette visite, mais qu'elle aurait lieu. Il sera reçu, il a demandé à être reçu, on reçoit. Bon, mais c'était tout à fait clair dans la position russe. Hein. Ben, il a voulu la venir, on l'accueille, parce qu'on est poli, on a les usages diplomatiques. Alors, c'est très intéressant à réfléchir sur les usages diplomatiques. Parce que ça, qu'est-ce que ça veut dire, accueillir un président d'un pays avec lequel on a évidemment des relations, comme avec beaucoup d'autres, même si on n'attend rien de cette rencontre? Ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui est en cause, c'est l'État qu'on juge, c'est-à-dire... On juge, la Russie a raison d'ailleurs, essaye d'avoir des relations normales avec la République française, qui est un grand pays encore. Bon, et après, si M. Poutine, individuellement, dans son fort intérieur, considère que l'interlocuteur qu'il a en face de lui n'est pas très sérieux, ne pèse pas lourd, ça le regarde. Hein. Mais il ne va pas manifester de l'animosité ou du mépris par rapport à la République française et à 66 millions d'habitants, parce qu'il a en face de lui un personnage qui n'a pas suscité son admiration jusqu'à présent. Et on en est quand même à 5 ans du mandat de M. Macron. Les rencontres ont été assez nombreuses. Et je pense que M. Poutine, je ne suis pas dans sa tête, mais a dû se faire une opinion sur le personnage. Et donc, ils disent, ben, ils demandent, je l'accepte, c'est les usages diplomatiques, c'est un chef d'État, il y a des relations qui sont diplomatiques, qui sont existantes. La France, on a des relations de très longue date avec ce pays, je l'accueille, il n'y a aucune raison de ne pas l'accueillir. Mais précéder la rencontre par un petit communiqué du ministère disant, on n'en attend rien de la rencontre, c'est dire, monsieur, on est poli, c'est les usages, voilà, on va vous écouter, mais on sait ce que vous allez nous dire. Mais ce qu'on n'a pas su, c'est le discours qu'a tenu M. Poutine à M. Macron.
On ne sait pas jusqu'à présent.
Voilà, on ne le sait pas parce que c'est délicat. C'est délicat parce qu'on voit évidemment comment la Russie se positionne. Elle dit à la République française, vous avez participé et signé à deux négociations successives sur les accords de Minsk qui reconnaissaient le droit à l'autodétermination des provinces du Donbass. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, vous avez oublié ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, hein? Et là, que peut répondre le président de la République française? Eh bien, on m'a dit de ne pas les faire appliquer. On. À Washington, quelqu'un m'a dit qu'il ne faut pas les appliquer. Et donc, voilà, j'ai obéi à Washington. Mais ça, effectivement, ce n'est pas sur TF1 qu'on va dire M. Macron a obéi à M. Biden ou à M. Trump. Hein? Bon, mais en fait, c'est rien d'autre que ça. Et donc, il a dû repartir, comme on dit, une main devant, une main derrière. Voilà, ben, monsieur, faites appliquer les accords. Appliquez vous-même les accords de Minsk que vous avez signés. Hein. On va voir, on va voir. Alors, tout ça, alors, bien entendu, on est en campagne électorale, parce que vous savez que jusqu'au 4 mars, monsieur Macron n'est pas candidat à la présidence de la République. Pourquoi le 4 mars? Parce que le 4 mars, c'est la date de limite de dépôt des candidatures avec les fameuses 500 signatures. Et donc, effectivement, il peut très bien, on peut très bien découvrir, surprise générale dans le monde entier, mais M. Macron est candidat. On ne le saura que le 3 au soir, peut-être, ou le 4 à midi. Je ne sais pas s'il y a une heure dans le calendrier. Bon, alors, la comédie continue comme ça. Hein. Alors, entre-temps, effectivement, il peut avoir un accident. Son hélicoptère peut tomber. Ouais. Bon, mais pour l'instant, il n'est pas candidat. Bon, c'est risible. C'est une comédie. Alors, pendant ce temps-là, il peut effectivement aller venir, courir les tribunes, traverser c'est le monde trois fois dans la semaine, etc. Se faire voir. Se faire voir, c'est-à-dire, en fait, il n'est pas en campagne, mais il sature l'espace médiatique de sa trombine. C'est ça.
C'est sa campagne.
C'est ça. Donc, c'est une campagne, c'est une véritable campagne payée par la République, payée par vous et moi, et qui, en fait, se dégage. Mais ce n'est pas la campagne, parce que de toute façon, jusqu'au 4 mars au matin, M. Macron n'est pas candidat. Voilà. Voilà dans quel genre de comédie la République française s'est installée. Et ça m'a fait réfléchir, mais je vais y revenir à propos d'un discours, enfin plutôt d'un papier qui a été signé à Pékin par M. Poutine et par le président chinois, sur les règles démocratiques. Et je me suis dit, et je vous livre ma réflexion, que je livre à mes camarades et complices, après tout, cette histoire de deux mandats de présidents successifs, qui est devenue une espèce de données de base. On exige ça de tous les chefs d'État africains, de tous les chefs d'État sud-américains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Parce qu'on a le choix entre un seul mandat ou des mandats à vie. Il n'y aurait pas de limite. À la limite, pourquoi pas un seul mandat ? Le monsieur vient, il fait son travail, et puis il finit, il va retrouver ses activités antérieures, il va devenir banquier, agriculteur, expert en je ne sais quoi, mais il aura contribué par ses 5 années passées au pouvoir au travail de la République française, et puis il vaincra ses occupations.
Il ou elle, hein ?
Il ou elle, oui, bien entendu. Alors que là, on a une espèce de droit de prolongation du mandat. Il a droit à deux, il ne pourra pas s'empêcher de faire les deux. Alors, il aurait droit à trois, il ne pourrait pas s'empêcher de faire les trois, etc. Donc, cette limite, à la limite, est peut-être stupide. C'est-à-dire, il serait beaucoup mieux, plus sain, en disant, oui, vous faites un mandat, parce que la France a besoin d'un président dans la Constitution et tout, et puis après, vous repartez, vous consacrez à vos activités, à votre profession. Vous aurez beaucoup appris, on espère que vous aurez bien travaillé, mais c'est tout. Vous n'êtes pas indispensable, hein. Il y a 66 millions d'habitants, il n'y a pas que des crétins. Donc voilà, on peut vivre. Il n'y a pas d'homme providentiel.
Ça
n'existe pas. Hein. Bon, donc je réfléchissais à ces mécanismes-là qu'on nous a imposés. Enfin, c'est vrai que maintenant, demander aux gens quelle est la durée maximum d'un mandat, la plupart des gens vont vous dire « Ah, ben, 2 mandats maximum ». Mais d'où ça sort ? Ça sort de rien du tout. Enfin, si, ça sort d'une habitude qui a été contractée, et pas tout de suite. Je rappelle qu'aux États-Unis, c'est une habitude relativement nouvelle, puisqu'il a fallu attendre la présidence de Franklin Delano Roosevelt pour qu'on dise qu'il avait fait, il était dans son troisième mandat quand il est mort. On dit quand même, c'est un peu long. Hein. Et donc, mais avant, ce n'était pas limité. Alors, il n'y a pas eu de président des États-Unis qui ait fait 3 ou 4 mandats. Mais c'était juridiquement possible. Ça a été interdit à ce moment-là. Et depuis, apparemment, tout le monde, au moins occidental, se plie à cette espèce de règle qui était écrite ici et là, mais qui n'a peut-être pas beaucoup de sens politique. Et je postule en plus que le renouvellement des couches dirigeantes est un besoin de santé pour un organisme comme une république. Surtout quand elle a la taille de la nôtre, la taille 66 millions d'habitants. Voilà. Bon. On en reparlera sans doute. Et puis, je regarde l'heure, non, tout va bien. Je voulais vous parler, parce qu'on en a, on a évoqué la question il y a quelques semaines entre nous, de la base de Guantanamo, parce que je suis tombé sur un texte très intéressant qui en fait l'histoire. Alors, je rappelle, vous avez entendu parler de Guantanamo, c'est un morceau du territoire de l'île de Cuba qui fait en gros, j'ai mesuré sur la carte, en gros, c'est pas tout à fait un rectangle, mais ça fait 12 km sur 8, enfin en gros 100 km carrés, c'est quand même assez grand. C'est l'entrée d'une baie dont le reste, le fond de la baie appartient encore à Cuba, c'est l'entrée d'une baie, donc c'est un endroit parfait pour faire un port, etc. Vous savez que ça ne sert pas que de port, et ça sert surtout de prison. Alors l'histoire est la suivante, et ça mérite d'être rappelé, au moins dans ses grandes lignes. C'est que la base de Guantanamo a été offerte, enfin plutôt a été prise sur les Cubains par les États-Unis d'Amérique. Alors ça remonte à la fin du 19e siècle, à la suite d'une guerre que les populations d'Amérique du Sud et d'Amérique latine mènent contre le maître impérial espagnol. Elles veulent s'autonomiser. Alors, ça a été fait déjà dans les années 1820 et tout pour le continent, pour la Colombie, le Pérou, etc. Et là, Cuba décide aussi de prendre son indépendance de la couronne espagnole. Cuba est aidé par les États-Unis d'Amérique, qui arrivent en disant « Vous avez raison de lutter contre l'impérialisme. » Alors, c'est là que ça devient cocasse. Vous avez les États-Unis qui arrivent. Alors, ils n'ont pas encore fait la prestation qu'on leur a connue, mais ils arrivent en disant « Nous, on est le meilleur garant contre l'impérialisme espagnol. » C'est ce qui va leur permettre, effectivement, de mettre la main sur le continent latino-américain au nom de la protection contre l'impérialisme espagnol et l'impérialisme européen en général, espagnol ou portugais.
Maintenant, c'est la démocratie.
Voilà, voilà, c'est la démocratie. Et donc, ils disent, ben voilà, vous êtes libres maintenant, mais on garde quand même un pied à terre. Et le gouvernement cubain qui est sorti de là dit, ah ben, ils nous ont aidés, même militairement, ils ont donné des conseils et tout pour chasser, pour bouter dehors le conquistador espagnol. Donc, on leur accorde cette base. Et depuis, alors que ces événements sont très anciens, la base n'a jamais été restituée. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut considérer que les États-Unis sont locataires d'un territoire appartenant à Cuba. Mais en droit, c'est pas les textes qui ont été signés à l'époque ne sont pas tout à fait clairs. Et les États-Unis, petit à petit, se sont donné un espèce de droit extraterritorial en disant c'est les États-Unis, mais c'est pas les États-Unis. Donc voilà, on peut y faire des horreurs qui sont contraires à notre législation, mais on peut pas nous poursuivre parce que les citoyens des États-Unis peuvent pas se plaindre de ce qu'on y fait parce que c'est pas vraiment chez nous. Mais c'est pas à Cuba non plus. C'est comme ça qu'on peut avoir, on peut emprisonner des Haïtiens qui fuient leur pays. Ça a été le cas au moment où Duvalier est tombé. Il y a des Haïtiens qui ont fui. Ils ont voulu aller aux États-Unis. On leur a dit non, mais on vous met à Guantanamo. Comme ça, vous êtes au soleil, un bon climat et tout. Et on les a mis, en fait, en prison. C'est revenu à d'autres occasions. Ça, c'était une première fournée d'Haïtiens. Donc, en fait, on a un territoire au statut juridique ambigu que les États-Unis ne veulent absolument pas lâcher parce que c'est une chair dans la chair cubaine. Alors, il faut savoir qu'à un moment donné, les États-Unis payaient un petit loyer, je crois 4 000 $ dans les textes initiaux à Cuba, qui a dit « J'en veux plus de vos 4 000 $, c'est une insulte. Je vais recevoir un loyer pour une terre qui m'appartient, vous vous moquez de moi. » Bon, donc ils ne payent plus de loyer, mais c'était 4 000 $ et ça n'avait pas été réévalué.
Et il n'y a pas une espèce de cour de justice américaine, comme on a une cour de justice européenne, qui pourrait régler ce litige de territoire ou de... Non,
non. Non, parce que les textes donnent le droit aux États-Unis d'être là, le texte signé en 1898. Donc il faudrait qu'il y ait un accord des deux parties pour dire on arrête. Bon, alors évidemment, comme il n'y a qu'une des deux parties qui veut, l'autre ne veut pas. Donc il faudrait qu'il y ait un changement d'attitude de la direction des États-Unis. Alors, les États-Unis ont eu, enfin les gens qui s'occupent de la cause cubaine aux États-Unis ont eu l'impression que Obama allait changer. Et puis Obama, comme d'habitude, a été hypocrite, hein, a annoncé beaucoup de choses qu'il n'a pas faites, il a fait croire et il n'a rien fait. Donc on en est resté en l'état. Trump, vous le savez, est revenu en arrière, enfin, il a durci les contraintes, pas sur Guantanamo, puisqu'il en a fait un usage, mais pas le premier. Hein, vous savez, depuis, donc, je rappelle que depuis le début de la guerre contre le terrorisme, Guantanamo est devenu un outil de répression de taille mondiale du gouvernement des États-Unis. C'est-à-dire, on peut y mettre n'importe qui, aussi longtemps qu'on veut, sans savoir pourquoi il est là, ni ce qu'on lui reproche. C'est donc un outil décisif de la guerre contre le terrorisme. Il faudrait donc que la guerre contre le terrorisme cesse, comme on dit, pour que Guantanamo n'ait plus d'intérêt pour les États-Unis. On n'en est pas tout à fait là. Mais je voulais rappeler ça, c'est très intéressant de suivre ce cas, c'est-à-dire ce cas de cette grande puissance qui rend malheureux, qui tyrannise un tout petit État sous toutes les formes et qui en plus a une espèce d'abcès sur son territoire pour une espèce comme s'il le narguait en disant « en plus je suis chez vous hein, et j'y fais du mal hein. ». Alors vous avez beau, vous, Cubains, tenir des discours sur les droits de l'homme, le respect et tout, mais moi je détruis, je crache sur les droits de l'homme à longueur de journée, à longueur d'année à Guantanamo. Hein, et je vous tire la langue. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et je suis le patron. C'est ça aussi que ça veut dire. Bon. C'est ça l'impérialisme contemporain. Bon. Ensuite, des petites nouvelles autres. Alors, je vais parler un petit peu de la France. Je vais partir un petit peu de la France parce qu'aujourd'hui, donc, on est le 8 février et il y a 60 ans, il y a eu une grande manifestation. C'était le 8 février 1962 contre la guerre d'Algérie qui était en train de s'achever. Alors, elle n'était pas tout à fait achevée. Les pourparlers entre le FLN et le gouvernement gaulliste étaient commencés, étaient en cours, mais ils n'étaient pas achevés. Et il avait été décidé, donc, par les forces de gauche françaises, et en particulier par les syndicats, tous les syndicats, je le précise, la CGT, très largement majoritaire, la CFTC, qui ne s'appelait pas encore CFDT à l'époque, la Fédération de l'Éducation nationale, avec l'appui du Parti communiste, d'organiser une manifestation pour la paix en Algérie. Il ne s'agissait pas, j'insiste sur le terme, il ne s'agissait pas de dire « le FLN a raison, la France a tort ». On veut que les combats cessent. On veut qu'on arrête de tuer des Algériens, que des soldats français meurent, etc. Bon, c'était ça, la position. Il se trouve que cette manifestation annoncée, tout dans les formes traditionnelles sur Paris, est interdite par le préfet de police, qui a donc des consignes tout à fait claires de son premier ministre, qui s'appelle Michel Debray, pour réprimer, c'est-à-dire pour éviter que cette manifestation ait lieu ou qu'elle soit réduite à pas grand-chose. Alors, en fait, vu mené, enfin, nanti de ce genre de conseils et de consignes, M. Papon va donner tout ce dont il est capable. C'est-à-dire que les forces de l'ordre vont taper fort sur les manifestants et ça va se terminer une espèce de souricière qui est une station de métro, donc dans des escaliers, où donc la police va repousser les gens qui essayent de s'enfuir devant les coups, les grenades lacrymogènes et tout. Il y aura 8 morts. Écrasés, piétinés les uns par les autres, ayant subi des coups de matraque, enfin voilà. Bon. Alors, on dit même que, contrairement à la version policière qui a été présentée à l'époque, que les grilles de la station de métro n'étaient pas fermées, donc il y a des gens qui sont allés sur le quai même et que les CRS sont descendus sur les quais et ont continué à tabasser. Donc la République française, à travers M. Papon et les consignes qu'il avait de M. Debray, a du sang sur les mains. Ça, c'est important à rappeler, c'était il y a 60 ans. Ce qu'il faut noter aussi, c'était que quelques mois auparavant, le même Maurice Papon, qui, je rappelle, est un ancien fonctionnaire de Vichy, avant d'être nommé ministre par Monsieur ministre du Budget, puis par M. Giscard d'Estaing, M. Maurice Papon avait organisé aussi la répression d'une manifestation organisée par le FLN de France à Paris, qui avait, elle aussi, été interdite, qui a été, elle aussi, réprimée, mais de façon beaucoup plus sauvage, ouais. Puisque les bilans qui sont aujourd'hui établis montent aux alentours de 200 morts, et probablement plus, puisqu'il y a une partie des manifestants qui, après avoir été tabassés, ont été jetés à la Seine, et donc le compte a été difficile à faire. Ça, c'est le même Monsieur Papon, c'est la même République française, il faut se souvenir de ça. Et puis, j'allais dire, de l'écart, de la violence, c'est-à-dire qu'à 8 personnes, à 8 morts, on s'est arrêté du côté des manifestants français. À 200 personnes, on a eu de la peine à s'arrêter quand il s'agissait de manifestants algériens. Ça fait partie aussi du deux poids, deux mesures à l'époque. Monsieur Papon, vous savez, a été poursuivi pour les crimes contre l'humanité qu'il avait commis, mais il a échappé à une condamnation trop importante, et puis il a eu droit à quelques années de prison, et il a bénéficié d'une remise de peine pour des raisons de santé. Donc je crois qu'il a fait que 3 ou 4 ans en prison, pas plus. Je vous invite, si vous le trouvez, je n'ai pas vérifié sur le net, mais si vous avez l'occasion de lire la plaidoirie de maître Henri Leclerc, qui est donc l'avocat de la défense par rapport aux victimes du métro Charonne, M. Henri Leclerc a fait une très belle plaidoyer, et il s'arrête, et c'est très intéressant qu'on y vienne, sur la question du crime de bureau. Alors j'explique. Pour nous qui nous intéressons, enfin, qui suivons les affaires pénales, puisqu'il s'agit d'affaires pénales, il y a mort d'homme, on se dit qu'un criminel, c'est un monsieur qui, avec des armes de différentes sortes, tue quelqu'un d'autre. Hein. Le crime de bureau, tel qu'il a été défini et de façon très magistrale par maître Henri Leclerc, ça consiste à ce qu'un monsieur en cravate, dans un bureau, avec les mains tout à fait propres, signe des articles et mette des listes de noms de gens qui vont mourir. Mmh. C'est-à-dire, c'est un assassinat de masse signé par un fonctionnaire. C'est ça, un crime de bureau. Hein. C'est, à la limite, beaucoup plus grave, parce que le crime de sang où un monsieur en tue un autre, il n'y a qu'un mort. Quand M. Papon faisait des listes de juifs qui allaient partir à Auschwitz, il envoyait à la mort des milliers de personnes. Hein. Et il spoliait les biens des autres au passage. Bon, ça, c'est un crime de bureau. Et il était satisfaisant que M. Papon fût condamné. Il était moins satisfaisant qu'il le fût si peu. Hein. Mais c'est bon à se souvenir en ce jour d'anniversaire de la répression du métro Charonne. Alors, la suite, vous la savez, le gouvernement, enfin, De Gaulle, je pense, a compris que, d'abord, les négociations étaient en cours avec le FLN à Évian, que le moment était venu d'arrêter cette guerre. Il savait lui aussi que l'OAS était dangereux. L'OAS a voulu le tuer. L'OAS faisait des morts. L'OAS, avant ou après la manifestation de Charonne, je ne sais plus, avait essayé de plastiquer le domicile de Jean-Paul Sartre. Enfin, ça devenait très, très dangereux. Il fallait arrêter cette chose-là. Voilà un contexte qu'il faut avoir, parce que ça peut se passer dans une république qui, soi-disant, est propre sur elle. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Dernière chose qui mérite qu'on en dise quelques mots. Il se développe aujourd'hui en Italie un mouvement étudiant extraordinairement fort. Alors, c'est important à savoir. Ça fait partie de la décomposition de l'État italien. Il faut savoir que depuis plusieurs années, du fait pour de restrictions budgétaires, paraît-il, il n'y a plus de postes créés dans l'éducation nationale en Italie. Donc les étudiants italiens n'ont pas l'espoir de travailler au moins dans la fonction publique. Vous savez qu'il y a de plus en plus d'Italiens qui émigrent. Alors non seulement la natalité italienne est en baisse, c'est-à-dire il y a une manifestation d'un manque de confiance dans l'avenir tout à fait clair, et puis les étudiants disent « j'étudie et ça ne sert à rien, puisque de toute façon je n'aurai pas à manger après bon. ». D'où ce mouvement qui est fort, qui est venu des profondeurs de la classe étudiantine, mais qui rappelle d'autres périodes où c'est les étudiants qui disent « on ne supporte pas », alors qu'ils savent très bien, parce qu'ils ont des familles, ils ont des amis, ils ont des parents, que beaucoup de personnes ne supportent plus la situation italienne actuelle de misère généralisée. Donc on a là des éléments d'un espèce de printemps qui risque d'être plus chaud qu'on ne le pense. Voilà. Une fois que c'est dit, on va passer un tout petit peu de musique pour passer à la suite de mon intervention.
Yeah.
reconnu John Lennon chantant Imagine. C'était pour dire que le poète, souvent, est très en avance sur son temps. Mais souvent, le poète, effectivement, est très en avance et il faut le reconnaître comme tel. Bon, il était tellement en avance qu'il a été assassiné, mais il était bien porteur d'un autre monde, d'un rêve, d'un autre monde, en tant que poète, chanteur sous cette forme-là, mais c'était bien de ça qu'il s'agissait. Je reviens un tout petit peu sur les questions ukrainiennes, parce que j'avais deux, trois choses à dire. D'une part, qu'il y a aux États-Unis un début de mouvement contre la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'il a circulé un appel de 100 associations de différents endroits, de différentes manières d'obédience plus pacifiques, anti-ceci, anti-cela, mais qui ont appelé à des manifestations qui ont eu lieu ce week-end aux États-Unis. Alors, j'ai vu quelques vidéos, il n'y avait pas des centaines de milliers de personnes, mais il y a un mouvement donc, de base, de petites associations qui manifestent dans les rues, y compris devant le Capitole à Washington, pour dire « pas de guerre avec l'Ukraine ». C'est-à-dire qu'il concrétise ce que nous avons tous compris, la guerre de l'Ukraine, en Ukraine, la guerre pour l'Ukraine, est une fabrication médiatique qui ne repose sur rien. C'est une opération de pure propagande qui est destinée à faire des difficultés à la Russie. On va revenir sur le pourquoi de ces difficultés. Et qui, en fait, commence même à poser problème au président de l'Ukraine en exercice. Car vous savez qu'aujourd'hui, non, hier, donc M. Macron, après avoir vu M. Poutine à Moscou, est allé à Kiev rencontrer M. Zelensky. Et M. Zelensky n'avait pas attendu l'arrivée de M. Macron pour dire qu'il commençait à trouver que c'était un peu exagéré, les récits d'invasion de l'Ukraine et tout. Vous savez, alors, le sommet est atteint parce qu'il y a une agence de presse très connue qui s'appelle Bloomberg, du nom de son fondateur, qui a été à une époque maire de New York, qui a même publié un communiqué décrivant l'attaque de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, et qu'ils ont retiré quelques minutes après parce qu'ils ont aperçu que c'était un faux. Alors, quand on en est à ce niveau-là de mensonge ou d'inconscience et tout, c'est très, très inquiétant.
Oui, et le mal est fait.
Et le mal est fait. Voilà, exactement. Bon, voilà Bloomberg et ses saletés, appelons ça comme ça. Bon, donc M. Zelensky, on le sent bien, est dans une position délicate. Alors je pense que M. Macron devrait raisonnablement lui dire ben, « on va appliquer les accords de Minsk, puisque vous, pas vous Zelensky, mais vous, M. Porochenko, vous les avez signés, donc il n'y a plus qu'à ». Je ne sais pas quelle réponse lui a été faite. Toujours est-il que M. Zelensky se sent un peu mal sur son siège, parce qu'il dit « moi, on est en train de m'envoyer dans une opération que je ne maîtrise pas, la propagande et tout est orchestrée à Washington et beaucoup à Londres ». Aussi, il faut insister là-dessus. Et moi, je ne suis jamais qu'un joueur, un pion qu'on déplace sur un échiquier. Et donc, il commence à trouver ça un peu désagréable. Mais il trouve tellement ça un peu désagréable. Et il le dit, alors en termes modérés, que beaucoup de bons esprits disent « toi, tu vas sauter ». C'est-à-dire qu'il va t'arriver quelque chose. On va te trouver un candidat intéressant, tu vas avoir un accident. Enfin, il commence à avoir un petit peu peur de la succession. Qui y a derrière ? Qu'il y a derrière, il y a M. Biden et son fils. Vous savez que le fils Biden, alors on l'a beaucoup reproché à Trump qui avait dit « moi je voudrais savoir ce qu'a fait le fils Biden en Ukraine ben, ». Le fils Biden a été nommé dans différents conseils d'administration d'entreprises ukrainiennes où il touchait énormément d'argent en tant que membre du conseil d'administration, mais où il ne faisait rien. C'est-à-dire que M. Biden a été financé, lui et son papa, par de l'argent pourri ukrainien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il importe de savoir, c'est que à l'époque du coup d'État de Maïdan, donc vous savez, la fameuse place de Kiev, où à un moment donné, des manifestations tranquilles pour demander telle ou telle réforme, je ne reviens pas là-dessus, se sont terminées étrangement, puisque dans les manifestants qui étaient au sol, on a vu plein de gens qui tombaient morts, parce qu'il y avait des snipers dans différents endroits qui tiraient dessus, et qui tuaient à la fois indifféremment des policiers et des manifestants. Et à partir de ce moment-là, la situation échappait totalement au gouvernement de l'époque, au point que le président donc Yanukovych, qui était président élu normalement de l'Ukraine à ce moment-là, est sauté dans une voiture et il n'a dû qu'à une intervention in extremis des services secrets russes de ne pas être liquidé en route. Il vit en Russie aujourd'hui, il a sauvé sa vie. Il n'a pas sauvé le régime. Et derrière toute cette agitation donc à Maïdan, donc ce coup d'État pour mettre à la place de M. Yanukovych, président élu, normalement un président non élu, issu du coup d'État avec des tireurs fascistes tirant depuis les toits sur les manifestants, depuis cette date-là, ce qui se passe, c'est qu'on sait qui est derrière. On sait qui est derrière. L'organisateur du coup d'État à Maïdan, du financement, de la mise au point de toute la mécanique de ce coup d'État du mois de février donc 2014, c'est une Madame Victoria Nuland, qui est une diplomate des États-Unis, l'épouse elle-même d'un diplomate, et que M. Biden a repris dans son équipe au département d'État. C'est-à-dire que c'est les gens, la personne qui a les mains les plus sales sur le dossier ukrainien, qui est à nouveau en charge du dossier ukrainien à la Maison-Blanche. C'est ça qui est gravissime. C'est-à-dire, à la limite, Biden l'invite à continuer ses méfaits. Et ça, M. Zelensky, tout naïf qu'il soit, c'est-à-dire il est nouveau en politique, on a pris un acteur qui passait à la télévision, on l'a transformé en président, tout naïf qu'il soit, il a compris. Donc je pense qu'il doit sentir qu'il est dans une très très mauvaise passe. Il a des ennemis aux États-Unis qui considèrent qu'il ne fait pas assez de zèle, qu'il ne veut pas assez la guerre et qu'il va avoir tort. Le problème, c'est que maintenant, il y a sans doute en face des gens qui vont faire comprendre aux États-Unis qu'il faut arrêter la comédie. Il n'y a pas de guerre prévue, si ce n'est la guerre qui est fantasmée par Mme Nuland, par le fils Biden, par le père Biden et tout. Mais il y en a assez que ces personnages, dans l'espèce d'hystérie de leur enfermement, mettent la guerre partout où ils ont envie de la mettre. Surtout que c'est une guerre contre... Alors, c'est bien facile de renverser Kadhafi. Enfin, c'est bien facile, ça n'a pas été si facile. Mais c'est un peu moins facile de renverser Poutine. Alors, vous devriez y réfléchir à deux fois, messieurs. Bon. Ceci est dit, et j'en suis là, pour vous distraire, je vais vous parler des Jeux Olympiques de Pékin. Alors, je vais vous parler des Jeux Olympiques parce qu'il y a eu effectivement l'ouverture donc de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors, je précise, dans le grand stade qui avait servi aux Jeux Olympiques d'été en 2008, avec des présences, pas de spectateurs, des délégations officielles et pas plus, un spectacle grandiose comme les Chinois savent le faire depuis qu'ils ont inventé les feux d'artifice, il y a très longtemps dans l'histoire que les Chinois ont inventé les feux d'artifice, donc ils sont encore les maîtres de cette activité-là. Et puis, donc, tout ce qu'il faut... Alors, les petits clins d'œil, parce qu'il y avait deux personnes, donc un monsieur et une dame, qui étaient chargés d'allumer la flamme olympique, selon les traditions. Et il se trouve que la dame était une Ouïghour chinoise. Bon, c'était histoire de dire aux journalistes, vous voyez, les Ouïghours sont pas si malheureux. Bon, mais ça, allez, ça, c'est pour le spectacle. Non, mais ce qu'on a pu apprécier quand même à travers les différents reportages, c'est que ces Jeux olympiques sont organisés en pleine pandémie, que toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de contamination de masse, parce qu'il y a quand même plusieurs dizaines de milliers d'athlètes, autant d'encadrements qui les accompagnent, des entraîneurs, des masseurs, des soigneurs, etc. Bon. Et tous ces gens-là sont parfaitement... Alors, on a plein, ils sont isolés. Oui, ils sont isolés parce qu'il faut pas... Ils peuvent être porteurs eux-mêmes, il ne faut pas qu'ils se mélangent à la population. La Chine est arrivée à un niveau, je le situe, admettons même que le chiffre soit probablement 10, mais il est contesté par personne. Il y a eu 5000 morts du Covid en Chine. 5000. Hein, voilà. Pas 900 000 ou 1 million comme aux États-Unis. Donc ça, et ça a été lié au fait qu'ils ont pris des dispositions extrêmement sévères pour éviter la contamination.
5000.
C'est ce qui explique aussi, et ça vous avez peut-être vu des images télévisées, que par exemple dans les cafétérias qui ont été organisées pour les athlètes dans le village olympique, c'est un robot qui sert les cafés. Bon. Ben parce qu'évidemment, ça évite un contact d'homme à homme et les plats arrivent. Il y a tout un système mécanique, informatique et tout. Donc les Chinois, bien entendu, s'en servent pour montrer l'état de développement de tout ce matériel-là et de leur capacité à organiser effectivement cette activité-là sans intervention humaine ou avec une intervention humaine plus lointaine, avec juste des postes de commande. Bon. Ça, c'est pour le spectacle. Et puis après, bon, le spectacle sportif va continuer à se dérouler. On voit déjà dans le palmarès des médailles que les Scandinaves se déroulent très bien. Mais les Chinois aussi, merci pour eux, hein, puisque la première médaille a été une médaille prise par un relais de patinage de vitesse par l'équipe chinoise. Et ils en auront d'autres parce qu'ils s'y sont bien préparés. Et que, je précise, alors on a un peu ironisé sur Pékin, qui n'est pas une ville où il neige tous les ans. Il y fait froid en général tous les hivers. Il y neige pas forcément beaucoup, mais pas très loin de Pékin. Dès qu'on remonte dans les montagnes et qu'on va vers la Grande Muraille, il peut y neiger. Puis il y a des régions très septentrionales en Chine où il neige tous les ans. Et donc, l'ironie s'arrête là. Je souligne aussi, parce que c'est notable, c'est qu'il y a de ça... Jusqu'en 2012-13, Pékin était une des villes les plus polluées du monde. Hein,
ouais, c'est vrai.
Hein, Je le rappelle parce que j'ai eu des témoignages de personnes proches qui me disaient que pendant des jours et des jours, on ne voyait pas l'immeuble d'en face. C'est-à-dire, on n'était pas dans du brouillard, on était dans la fumée. Dans la fumée émanant des usines, etc. Bon, alors, on est passé de 200 jours de pollution à moins de 100 jours aujourd'hui à Pékin. Ça veut dire une politique, il y a une décision qui a été prise d'arrêter ça, de régler. Et donc, il y a toute une série de mesures. Je donne un exemple parmi d'autres. Mais les Chinois, il y a 30 ans, faisaient tous du vélo pour aller au travail. Maintenant, ils font pratiquement tous, il y a encore des vélos, mais ils font tous du scooter, à minima. Puis il y a beaucoup de voitures. Les scooters ont été acceptés sur le territoire chinois et fabriqués par les Chinois. Mais il n'y a que des scooters électriques. Il y a zéro scooter à carburant, donc, à carburant fossile, comme on dit. Voilà. Alors, effectivement, quand on veut un résultat, et on y arrive. Et aujourd'hui, Pékin n'est plus une ville très polluée. Ce n'est pas encore le rêve, ce n'est pas Miami, mais c'est ça. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Le plus important, c'était qui était là. Qui était là à cette cérémonie d'ouverture. Parce que vous vous souvenez, je vous rappelle qu'il avait été annoncé le boycott par un certain nombre de pays.
Diplomatique,
voilà, boycott diplomatique. Oui, parce qu'on le sait, les pays qui ont fait le boycott diplomatique, à commencer par les États-Unis, ont quand même envoyé des athlètes qui espèrent bien avoir quelques résultats. Et le Canada, bien entendu, et la Grande-Bretagne. Donc la France n'était pas tombée dans ce panneau. Mais il faut noter quand même qu'à la cérémonie d'ouverture, il y avait un certain nombre de représentants, chefs d'État ou chefs de gouvernement qui étaient là, qui étaient beaucoup des gouvernements de l'Eurasie. Il y avait tous les membres de l'organisation de Shanghai. Il y avait le premier ministre pakistanais. Il y avait toute une série de pays, une vingtaine de pays et de chefs d'État. Il y avait le premier ministre polonais. C'était le seul européen officiel, parce que un membre de l'Union, puisqu'il y avait aussi un représentant de la Serbie. Mais en gros, c'était surtout des gens de la région eurasiatique qui étaient là. Et des amis, enfin des gens qui ont des relations organisées et régulières avec la République populaire de Chine. Et bien entendu, il y avait le président russe qui était là lui-même dans une rencontre qui était prévue de longue date. Alors qu'est-ce que ça voulait dire tout ça ? Ça voulait dire effectivement que la Chine n'est pas isolée, que le boycott diplomatique n'a pas produit beaucoup d'effets. Et d'ailleurs, je me rappelle la position donc, de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinoises qui avait dit bon, « Nous, on ne les avait pas invités, donc on n'est pas surpris qu'ils ne viennent pas. » Bon, c'était ça la réalité.
Oui,
elle l'avait dit. Elle a dit, ils ne viennent pas. L'important, c'est qu'on ait les athlètes et que ça garde un caractère sportif. Et donc, ce caractère sportif a été confirmé par un certain nombre d'autorités d'entités de taille mondiale. Le Comité international olympique, qui ne pouvait pas dire le contraire. Il disait, moi, je suis là pour organiser des rencontres sportives. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Et donc, il est venu rappeler que c'était pour ça que ça avait lieu, les Jeux olympiques. Il est venu remercier la Chine pour l'excellent accueil qu'elle faisait à ces Jeux olympiques d'hiver. Et il s'en est tenu à son rôle. Et puis il est venu deux autres personnages très importants ayant une position et un rôle clé au niveau mondial. Il est venu le secrétaire général de l'ONU lui-même, M. Guterres, qui est venu saluer une rencontre sportive internationale de haut niveau, bien organisée, qui a félicité la République populaire. Ça mérite d'être dit. Et puis il y avait le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, qui lui aussi ne s'arrête pas à des considérations de boycott diplomatique. L'OMS a un rôle mondial, entend le tenir de la meilleure façon possible, avec des moyens autant que possible qui devraient être plus importants que ceux qu'elle a. Donc il était tout à fait normal qu'il fût là et qu'il assistât à cette cérémonie et qu'il puisse apprécier concrètement les précautions qui étaient prises par les organisateurs des Jeux olympiques pour éviter la propagation de la pandémie. Ce qu'il a fait. Voilà, ça c'est donc le contexte. Alors après, vous allez suivre, si vous avez envie, toutes les épreuves, si vous vous passionnez pour le bobsleigh, etc. Mais c'était ça le contexte politique sur lequel je voulais m'arrêter. Mais le plus important, c'était, et c'est là-dessus que je vais terminer, c'était que la rencontre entre les présidents chinois et russes était une rencontre destinée à faire date. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas simplement serré la main devant les caméras pour dire « Bienvenue, camarade », avec une tape sur l'épaule. Ils ont publié un document dont l'intégralité a été publiée par le site du Kremlin, donc de la présidence russe, dans la version française que j'ai sous les yeux, qui ne fait pas moins de 12 pages, on enlevait les illustrations, est qu'une déclaration politique de la plus grande importance, car elle engage beaucoup l'avenir, non seulement de ces deux pays-là, mais beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est une déclaration politique de ces deux chefs d'État qui a été soigneusement préparée, mijotée, et qui est une espèce de feuille de route pour les 8, 10, même 15 années qui viennent pour l'organisation de l'humonde, de la planète et de l'humanité. Alors, j'insiste sur ces mots-là, car l'approche qu'il y a dans ce document qui est long, d'une douzaine de pages, format normal, hein, caractère 12 avec une petite interline, bon, ce document-là est destiné à dire l'humanité a besoin d'abord de vivre en bonne intelligence, d'éviter qu'il y ait encore une guerre au Tigré, une guerre au Libye, une guerre en Syrie, etc., hein, et a besoin de trouver un mode de gouvernance, c'est-à-dire des relations entre des États qui existent, qui se respectent, qui signent des accords et qui s'y tiennent. C'est ça que nous avons décidé de changer. Et ils affirment très clairement que ça va bien au-delà, et ils l'ont dit dans une expression chinoise, ils sont, on est adossés l'un à l'autre, c'est-à-dire comme s'il y avait des ennemis de tous les côtés, on est adossés l'un à l'autre, on se tient, on se serre les coudes, et on fera face à la situation mondiale, ensemble. Bon, c'est à la limite plus qu'un traité de paix, c'est beaucoup plus que ça, c'est un projet pour l'humanité.
Et c'est ça.
C'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Bon. Alors, je vais m'arrêter sur un certain nombre de points qui sont dans ce texte. Alors, on sentait venir ce texte parce qu'il était déjà en gestation, en germe, dans toute une série de positions du président chinois, de Poutine à d'autres occasions. Mais là, il y a une espèce de synthèse. Et donc, ils ont choisi la date à bon escient, avec un écho maximum. Et puis, ils ont montré à quel point ils en étaient de leur réflexion commune et de leur coordination et de leur volonté de faire face ensemble à la situation mondiale qui est préoccupante. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. La situation est préoccupante parce qu'il y a des gens, il y a des fauteurs de guerre, inutile que j'insiste là-dessus, on a compris. Il y a des gens qui ne prennent pas en considération les inégalités considérables qui existent encore dans l'humanité et qui sont en cours d'approfondissement à cause de l'épidémie mal suivie dans une série de pays. Donc on est face à ça, une situation inquiétante, dangereuse, à laquelle il faut qu'on ait une réponse solide et coordonnée pour 10 ans, voire plus. Il n'y a pas de date. Ce n'est pas un traité avec des échéances. C'est une volonté commune de travailler ensemble pour l'avenir de la communauté humaine. Alors c'est autre chose, la communauté humaine, j'insiste, que la soi-disant communauté internationale dont on nous rebat les oreilles, où pratiquement ça se joue entre Washington, Londres, et Paris et Bruxelles. C'est pas ça la communauté humaine, c'est aujourd'hui 7,5 milliards de personnes, dont une partie vit bien, dont l'autre partie vit beaucoup moins bien, et qui a besoin de resserrer les rangs, et qui a la capacité technique, ils insistent aussi, qui a la capacité technique de beaucoup progresser, à condition qu'il y ait des politiques d'union, de respect de l'autre, qui ne sont pas encore tout à fait à l'ordre du jour de tout le monde. Mais il y a tout un chapitre, par exemple, sur les nouvelles technologies de la communication. Bon, là, on sait que les inégalités sont flagrantes. Il y a des développements sur la question des vaccins. Bon, on s'en a déjà expliqué pourquoi on vaccine chez les uns et pas chez les autres, etc., etc. Et il y a aussi un appel à faire sortir des masses importantes de la pauvreté, qui existe et qui est en train de s'accroître du fait de l'épidémie dans beaucoup de pays. Et la Chine a le droit de parler, elle peut parler fort, puisqu'on sait que sur les 10 dernières années, la Chine a sorti 200 millions de Chinois de la pauvreté. Et donc, il dit, voilà, on sait faire, on l'a fait, tout le monde peut le faire, à condition qu'on les laisse faire et qu'on ne vienne pas les bombarder pour des raisons fallacieuses, en les empêchant de faire leur boulot. Et donc, il développe un projet, disons, dont l'architecture centrale, c'est les Nations Unies, la charte des Nations Unies. Ils insistent, et ça c'est tout à fait important, sur les droits de l'homme. Mais j'insiste là-dessus parce que si vous lisez bien la charte des Nations Unies, il y a des droits de l'homme au sens où on entend nous ici, c'est-à-dire liberté d'expression, des choses comme ça, ça en veux-tu, en voilà. Mais il y a aussi des articles dans la charte des droits de l'homme qui donnent les droits sociaux, économiques, sanitaires. Ça aussi, ça fait partie de la Charte des Nations Unies. C'est l'égalité de tout le monde sur tous les plans, pas simplement le droit de parler à la radio. Ça va bien au-delà. Et ça, c'est un droit de l'homme sur lequel on insiste beaucoup moins dans nos contrées. Mais ça y est dans la Charte des Nations Unies. D'où l'insistance des deux présidents et des deux pays pour dire on veut la Charte des Nations Unies dans sa totalité et dans son respect. Et le respect du droit international, ce qui veut dire ne pas rentrer chez les autres sans leur avoir demandé leur accord, ne pas bombarder les autres sans leur avoir demandé leur accord, etc., etc. Ensuite, alors, il y a toute une série de chapitres. Le premier chapitre considère justement la démocratie. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure à propos des deux mandats. Ils disent, attendez, la démocratie, ça se mesure au fait que la population est satisfaite de son gouvernement. Ça ne se regarde pas dans des textes avec des arguties sur le droit de ci ou de ça. Non, est-ce que la population est satisfaite de son gouvernement ? Après, ils disent, ils insistent, une nation peut choisir les formes et les méthodes de mise en œuvre de la démocratie qui conviennent le mieux à un État particulier en fonction de son système social et politique, de son contexte historique, de ses traditions et de ses caractéristiques culturelles uniques. Il appartient seulement au peuple du pays de décider quel est son droit démocratique. Donc il n'y a pas une fabrication toute faite, hein, c'est ce que je disais à propos des deux mandats de président, qui tombent du ciel et qu'on va imposer, y compris à coups de canon et de bombarde. Ça c'est le premier aspect, donc... l'aspect démocratique, on met tous les droits qui sont dans la charte de l'ONU et on laisse les peuples choisir en fonction de ce qu'ils sont de longue date. Alors vous savez qu'une des critiques, c'est un petit clin d'œil que font les intellectuels russes aux États-Unis, on dit, vous êtes là depuis si peu de temps, vous n'avez pas tout compris. Il y a ça qui se dit. Bon, vous avez une histoire tellement courte que vous n'avez pas fait le tour de toutes les questions, bien entendu. Et un petit au hasard, il parle du climat, bien entendu, vous imaginez. Et de temps en temps, il y a des petites remarques en disant, dans les sommets consacrés au climat, donc les accords de Paris et tout, il avait été écrit que les pays développés fourniraient 100 milliards de dollars pour financer les infrastructures, enfin les actions contre la hausse de la température. Où sont-ils les 100 milliards ? Ah ben, ils n'ont pas été donnés. Dommage. Ah, je vois qu'il est, il est presque temps. Donc, je développerai la semaine prochaine. Puis alors, du fait, ça me donne l'occasion de dire que demain soir, vous aurez 1h30 consacrée à la route de la soie et donc à ce qu'est aujourd'hui la Chine dans ses projets économiques, qui se recoupent d'ailleurs beaucoup avec ce qui est dans ses discours. Mais on y reviendra en détail, les 12 pages de la Déclaration commune Russie-République populaire. Merci, Yamine. À demain soir pour les auditeurs, 20h.